Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciacca all'ingresso in area ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Aujourd'hui, nous allons faire un premier bilan après 7 journées de Serie A. Et pour ce faire, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Van Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors Guillaume, mine de rien, on a pratiquement joué 20% de la saison. Cela passe extrêmement vite.
Encore déjà
plus. Ouais, encore plus cette saison. Tu te rends compte, on est au 20 septembre. Il y a quasiment déjà 20% de la saison qui est derrière nous. Et je te propose de commencer très très rapidement, de rentrer tout de suite dans notre épisode où l'idée c'est de faire un petit bilan principalement des grosses équipes et puis après on aura comme d'habitude un petit peu notre vrac habituel où on met pas mal de choses. Mais là clairement après cette 7ème journée qui a confirmé beaucoup de choses entrevues lors de la première, lors de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième et de la sixième journée, Guillaume, le cas épineux, c'est la Juve.
Ah
la
oui, Juve. On rentre tout de suite dans
Guillaume. Ah oui, Guillaume, 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Bilan d'ailleurs auquel on peut ajouter un 0 sur 6 en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant prioritairement sur le début de saison de la Juve?
Écoute, il y aurait tellement de choses à dire. La chose la plus évidente et qui fait le plus parler aujourd'hui en Italie, toi comme on le sait, c'est évidemment le cas Allegri. Et on ne peut pas passer outre, parce qu'on pourrait revenir évidemment sur, enfin remonter sur l'arrivée de Ronaldo et tout ce qui s'est passé depuis, tout ce qui en a découlé, parce qu'Allegri évidemment n'est pas le seul coupable. Mais aujourd'hui quand même, tu as la question évidente de est-ce qu'il doit rester ou pas. Toi comme moi, tu peux le voir sur les réseaux sociaux. Les Allegri House, l'hashtag qui est toujours en tendance en Italie. Et surtout, Johan, la nouveauté quand même de ces dernières heures, c'est que même dans la presse piémontaise, que ce soit Tuttosport ou la Stampa et plus généraliste comme le Corriere della Sera, il y a quand même le message qui est passé, ou je pense même qui est filtré par la Juve, c'est que la patience n'est plus illimitée pour Max Allegri. Alors son licenciement, selon Tuttosport, tu vois, aujourd'hui on enregistre, on est le mardi 20 septembre, Tuttosport résumé en disant que le débarqué, lui et son staff quand même, parce qu'on oublie souvent Johan, qu'il y a aussi son staff derrière.
Qui a été renforcé d'ailleurs.
En plus, coûterait environ, avec son successeur tout compris, Tuttosport a tablé en une sur 80 millions, ce qui est beaucoup en brut. Et de la veille, donc lundi, on parlait plutôt de 30 millions d'euros, de 36 millions d'euros, pardon, bruts, selon Catch the Finance. Donc c'est un peu ce qui.
Voilà, en fait, la différence, c'est que Tuttosport anticipe en disant, si tu veux un entraîneur top,
exactement,
il faudra un gros budget. Donc c'est en gros 50 pour virer Allegri et 50 pour prendre un nouvel entraîneur. Sachant que si c'est par exemple ils choisissent un Montero, par exemple, parce que c'est une piste qui a été évoquée, l'entraîneur de la Primavera. Le salaire sera beaucoup moins important que celui d'Allegri, donc on ne sera pas du tout sur les 80 millions d'euros Tuttosport.
Ouais, salaire de 7 millions d'euros, hein. 7 millions d'euros jusqu'en 2025. Net.
Voilà, ce qui est certain, c'est que pour le virer, selon les calculs de Calcio e Finanza, ça c'est 36 millions d'euros.
Ce qui est quand même colossal pour un club qui va enregistrer encore des grosses pertes pour l'exercice en cours.
Plus de 200 millions d'euros.
Voilà, et voilà, la Juve est quand même beaucoup plus regardante sur ses finances, et aujourd'hui, signer un chèque à Allegri de 36 millions d'euros sans accord, encore une fois. Hein. Il faudrait que les deux parties, pour éviter ce montant-là, se mettent d'accord. Ou alors, tu sais, Johan, qu'il reste sous contrat jusqu'au jour où il retrouve un club et que là, dans ce moment, dans ce cas échéant, un accord est trouvé pour que lui signe dans un nouveau club. Mais sans ça, en tout cas, ce serait 36 millions d'euros, des salaires qui lui restent à encaisser jusqu'en 2025. Donc ça reste le côté actu, en tout cas autour de la figure d'Allegri, ces dernières heures dans la presse italienne.
Mais 36 millions d'euros, si tu te qualifies pas en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est plus que ça. Si tu ne vas pas en huitième de finale de Ligue des Champions, ça va te faire perdre entre les droits télé, entre les primes UEFA et entre la recette billetterie, entre 10 et 15 millions d'euros. Donc le calcul doit être fait. Est-ce que je dépense aujourd'hui 36 millions d'euros, et ça pourrait être moins parce qu'on connaît les relations amicales entre Agnelli et Allegri, et j'ose espérer que Allegri, après son année et quelques mois catastrophiques, aurait au moins la décence de renoncer à quelques mois voire slash années de contrat. Est-ce que tu fais la dépense maintenant, ou est-ce que tu te dis je la fais plus tard, avec le risque que si on doit lui payer 2 ans de contrat à la fin de cette saison-là, en le gardant jusqu'à la fin de la saison, avec en plus une absence de Ligue des Champions, ça nous coûtera encore plus cher que 36 millions d'euros.
En tout cas, dans la direction, ce qu'on peut comprendre, c'est que Pavel Nedved est plutôt favorable au départ d'Allegri, et ça, c'est pas vraiment une nouveauté.
Non.
Parce qu'on savait déjà sa réticence à l'époque de son retour.
Avant, c'est un qui avait poussé pour le faire partir avec Paratici.
Exact. Et officiellement, par contre, que ce soit Maurizio Arriva Bene, Andrea Agnelli, visiblement même Cherubini, visiblement il y a quand même il y a un soutien de manière officielle. Après, tu sais, ouais, moi, la boutade qu'avait fait Arriva Bene à un supporter en disant « si je prends un nouvel entraîneur, est-ce que c'est toi qui vas le payer ?» Moi, tu vois, ça me paraît quand même assez symbolique quand même de aujourd'hui, si Allegri est toujours sur le banc de la Juve, c'est quand même plus pour une question économique qu'une question technique, parce que tu peux perdre des matchs et tu peux avoir des contre-performances, mais encore une fois, dans le contenu de ce qu'on a pu voir, et là on va aborder la question terrain, même contre Monza à 11 contre 11, honnêtement, il y a vraiment de quoi. J'avais envie de dire s'inquiéter, mais on s'inquiète depuis trop longtemps aujourd'hui pour la Juve. En fait, moi, ce que je déplore en plus de l'aspect du jeu et du contenu, c'est même l'aspect émotionnel. Dans cette équipe, je ne vois aucune réaction, je ne vois aucune révolte, je ne vois aucun leader capable de prendre l'équipe sur les épaules ou même de la réveiller. L'image des fins de match contre Benfica, contre Monza, quand les joueurs vont sous la coude, pour voilà, ils restent stoïques et voilà, ils prennent les sifflets, ils repartent. En fait, il y a aucune réaction émotionnelle dans cette équipe à la situation actuelle. Il y a aucune révolte et vraiment au-delà du jeu évidemment qui est latent et qui n'existe même pas parce que il y a aucun fil conducteur, il y a aucune identité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on déplore depuis des mois et on en parlait déjà la saison dernière. Mais aujourd'hui, même au niveau des hommes, au niveau du vestiaire et de l'orgueil, je ne vois aucune raison. Même à 10, tu peux toujours quand même te révolter. Et voilà, on va sortir un peu les... Alors, c'est assez... voilà, c'est un discours assez simpliste, mais sortir un peu les tripes dans tout ça. Et bah, tu es quand même à la Juve. Et tu as quand même perdu contre Monza qui a empoché sa première victoire en Serie A. C'est quand même assez dingue d'en être arrivé là. Et la Juve touche le fond sans vraiment réagir. Et même Allegri, tu sais, Johan, quand il était dans les tribunes dimanche, c'est plus Allegri qui enlève sa veste, c'est plus Allegri. Même lui, parfois, me semble un peu résigné à une situation dans laquelle, aujourd'hui, il ne trouve pas les ressources et il ne trouve pas les solutions voilà, pour sortir de ce moment, quand même, qui est compliqué, mais depuis maintenant le début de saison.
Alors, si on revient juste sur le match de Monza, comme tu l'as fait. Tu disais, même à 11 contre 11, c'était compliqué. Quand on se penchait sur les stats, et je le fais toujours pendant les matchs, à 11 contre 11, Monza avait plus souvent le ballon, Monza a plus tir au but, Monza avait plus de tirs cadrés, et Monza avait un meilleur expected goals. Monza qui avait pris un point en 6 matchs. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu parles d'absence de révolte ou de difficultés émotionnelles, la seule révolte que tu as, c'est un mauvais geste de Di Maria, qui prend carton rouge. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est que c'est des joueurs qui sont extrêmement nerveux en permanence, qui semblent avoir accumulé une certaine dose de frustration qu'ils ont envie d'évacuer ou qu'ils ont du mal à contrôler. Le nombre de joueurs qui lèvent les bras, qui écartent les bras en disant « Mais bougez-vous, qu'est-ce que je fais de la balle? À qui je la donne ?» Mais personne ne se démarque, mais personne ne bouge. Enfin, il y a ce fameux body language qu'il ne faut jamais surinterpréter, mais qui parfois donne quand même des indications que je trouve assez terribles pour, à la fois pour les joueurs, à la fois pour les dirigeants et à la fois pour l'entraîneur. On sait que le vrai problème, évidemment, c'est Allegri, qu'il n'est pas le seul responsable, que Agnelli est responsable, que les
ça
joueurs...
Ça, on peut le rappeler.
Hein. Ouais, bien on sûr, que les joueurs sont responsables aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Il y a aussi des absences qu'on peut... Voilà,
oui, mais c'est peut... pas suffi... Mais tu
ah
vois,
non, mais bien sûr. Bien
mais
sûr,
même les absences, semble. Moi, je trouve ça alors, évidemment que c'est factuel. Mais déjà, il y a le caractère de supputation. C'est-à-dire, il nous manque Pogba. Mais attendez, Pogba, il fait quoi depuis 5 ans à Manchester United? C'est quand sa dernière grande saison? On est certain que là, Pogba au milieu de terrain, ça résoudrait tous les problèmes?
Et surtout, Pogba ne peut pas manquer dans une équipe où il n'a quasiment jamais joué depuis son retour. Donc,
exactement.
C'est
et puis
compliqué
attends,
de...
tu vas me faire croire qu'avec Bonucci, Danilo, McKenny, Vlahovic, Kostic, Di Maria, Paredes, qui est-ce qui me manque qui était titulaire? Danilo, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Tu vas me faire croire que tu n'es pas capable de battre Monza? Ou en tout cas, pendant 40 minutes où tu es à 11 contre 11, de les mettre plus en difficulté que ça. Donc moi, je veux bien les blessés et les absents, mais il faut quand même regarder l'identité de ceux qui sont sur le terrain contre Monza. Et encore une fois, sur Allegri, il y a à la fois l'absence d'identité, de style qui me gêne énormément, parce que le coup de « il n'y a que la victoire qui compte », ok, très bien, quand tu gagnes, tu sors cette carte-là, tu peux rien dire en face. Alors si, tu peux dire « bah tu joues mal, mais lui, il va te sortir le totem, oui, mais je gagne ». Donc là, après, c'est un affrontement idéologique.
Sauf que tu gagnes plus.
Mais maintenant que tu gagnes plus, tu retiens quoi des un an et quelques mois d'Allegri? Bah, tu retiens rien, à part des difficultés. Mais encore une fois, ça, c'est le côté terrain, le côté communication. Pour moi, il est tout aussi catastrophique. On a quand même un entraîneur. Moi, je suis halluciné que ce n'ait pas fait plus de bruit en Italie. J'en avais parlé à la radio. On a quand même un entraîneur qui, avant le match contre la Sampdoria, quand un journaliste l'interroge en lui disant « Bah maintenant, vous allez jouer tous les 3 jours », lui, il dit « Bah génial, pas de problème ». Là, à l'époque, il parlait pas de blessé, parce qu'on était en début de saison. Génial, moi, j'adore ça. De toute façon, moi, les entraînements, j'aime pas ça. Moi, je vis que pour les matchs. Il y a des entraîneurs qui disent qu'ils vivent leur métier pour du lundi au samedi, du lundi au vendredi, pardon. Il dit, moi, je le vis pour le samedi au dimanche. Mais t'aimes pas entraîner, mais ça se voit que t'aimes pas entraîner. Parce que le travail qui est fait sur les joueurs, on le voit pas. Il y en a pas. Si t'aimes pas entraîner, comment tu veux que les joueurs prennent du plaisir? Comment toi, tu amènes du plaisir au quotidien dans tes entraînements qui sont le moment où tu façonnes la performance du week-end? C'est pas juste tu t'entraînes comme ça pour repasser le temps. Tu t'entraînes parce que c'est là que se décide ce qui va se passer le week-end. Donc les difficultés qu'on voit sur le terrain, elles viennent de quelque part. C'est pas juste le match commence, les joueurs sont en difficulté. C'est parce que le travail n'est pas effectué aussi également la semaine. Mais il n'est pas effectué pourquoi? Quand un entraîneur dit, et moi je n'ai jamais entendu un seul entraîneur, et Dieu sait que j'aime lire les interviews des entraîneurs, des bouquins sur les entraîneurs, etc. Et pas que de Serie A, hein, de partout, même des plus petits entraîneurs dans des petites divisions. Je n'ai jamais entendu un entraîneur expliquer « je n'aime pas entraîner ».
Et tu sais, j'ai regardé un peu les réactions sur Sky dimanche soir, sur le plateau du Sky Club. Et c'est vrai que tu vois Fabio Canales, qui connaît quand même Max Allegri, même personnellement, lui disait qu'il avait l'impression que déjà sa pause de 2 années ne lui avait pas fait du bien, qu'il s'était un peu enfermé dans ce personnage depuis cette fameuse dispute, tu t'en souviens, avec Léa Dan sur Sky. Et surtout, tu parlais d'idéologie, et lui parlait vraiment de guerre idéologique dans laquelle s'est enfermé Allegri et dans laquelle il ne veut pas évoluer. Aujourd'hui, on a plein d'exemples en Italie où les entraîneurs ont été capables d'évoluer dans leur style, dans leur façon de raisonner, dans leur façon de penser, dans leur façon de faire leur équipe. Et tu parles des absences, on voit bien qu'il y a d'autres équipes qui ont également des absents, mais qu'importe les interprètes. Du moment où tu as une identité et un fil conducteur qui se passe entre titulaire et remplaçant, des exemples, il y en a plein, mais à la Juve.
Mais il y en a un majeur, Guillaume. C'est le Milan l'année dernière. Combien de matchs ils ont fait avec, j'allais dire, maintenant il y a 5 changements, donc les 16 joueurs oui. les plus à même de jouer, etc. Combien de matchs sur 38 ils ont fait sans blesser? Il n'y en a quasiment pas dans la saison. Ils ont même fait des matchs, Guillaume, souviens-toi, avec 5-6 blessés titulaires.
Oui, tu te souviens, on avait le banc avec tous les blessés. T'avais,
bien sûr.
T'avais Zlatan, t'avais Kier, t'avais Rebic, t'en avais plein. Mais ils ont quand même été capables, tu vois, d'arracher le scudetto. Et on peut même prendre l'exemple récent de Milan-Naples, on va parler tout à l'heure, où t'as quand même ton joueur majeur comme là-haut qui n'est pas là. Et pourtant, tu joues quasiment pareil, même sans lui. En fait, tu te dénatures pas du moment où les joueurs savent ce qu'ils doivent faire et du moment où ton équipe a un sens idéologique et un sens tout court. Aujourd'hui, la Juve, tu peux faire jouer qui tu veux à la place que tu veux, du moment que les joueurs ne savent pas quoi faire du ballon et même sans, c'est très compliqué. Et c'est vrai que, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que cette guerre idéologique dans laquelle s'est enfermé Allegri et même en conférence de presse où tu vois même le samedi à la veille du match à Monza, bah, lui dit non mais moi, le licenciement, ça me fait rire parce que lui aussi, il se sent en position de force. Et moi, il ne m'a pas l'air vraiment de quelqu'un qui est prêt à faire un pas en arrière ou qui est prêt à dire, bon, bah voilà, je vois bien que la greffe ne prend pas depuis… Parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais c'est depuis quand même la semaine dernière, Johan, que ça ne va pas au niveau du contenu, au niveau
c'est
du
cher.
Jeu. Donc, c'est pas seulement maintenant. Et moi, en tout cas, moi, j'arrête sa conférence de presse samedi. Lui m'a l'air parfaitement en place. Et si la décision ne vient pas d'en haut… Écoute, moi, je ne le vois pas partir de manière éminente, sauf si vraiment il y a chute, on va dire, verticale dans les prochains mois, d'ici la trêve de novembre et du mondial. Mais je pense que lui, en tout cas, ne fera pas un pas en arrière si Agnelli n'en décide pas autant, et même si Alibaben ne va pas dans le sens de Nedved, qui, pour le coup, semble le seul à dire « Bon, écoutez, ça ne marche pas, il faut changer ». Mais il m'a l'air un peu trop seul dans cette façon de raisonner, en tout cas pour l'instant.
Alors, je m'excuse s'il y a des bruits parasites, mais mon voisin a décidé de faire des travaux pendant l'enregistrement, donc je
c'est
suis désolé.
C'est pas Allegri qui essaye de couper.
Non. Ou alors il est en train de défoncer mon mur et pour apparaître chez moi, mais je vais couper mon micro régulièrement pendant que tu parles, Guillaume, pour éviter qu'il y ait trop de bruit.
C'est peut-être un pro Allegri qui essaie de.
C'est possible.
De camoufler tes propos.
Il en reste, hein, sache-le. Mais quand on parlait de cette histoire de communication, moi ce qui me gêne c'est que Allegri c'est devenu une machine à punchline en fait, et j'attends pas ça de lui.
Eh oui.
Quand il dit moi les rumeurs de licenciement, ça me divertit. Mais de quoi ça te divertit? C'est le moment de te divertir avec des rumeurs de licenciement? Non, le moment c'est d'aller travailler avec tes joueurs. Quand il dit je suis pas le problème, je suis la solution. Mais ok Rocky, ok Rambo, mais on te demande pas ça en fait. Reste humble, parle-nous de football, parle-nous de ce que tu vas mettre en place, parle-nous de ton analyse des difficultés de la Juve, mais arrête de faire le malin en conférence de presse. C'est ça aussi qui va pas dans un moment de grande difficulté, et c'est aussi pour ça que les tifosi de la Juve aujourd'hui le lâchent, parce que il faut aussi dire ça, Guillaume. C'est que, un, ils le lâchent parce qu'il y a de moins en moins de monde au stadium. Alors, ok, les prix des abonnements et le prix des places.
Hein. Ouais.
Voilà, le prix des abonnements et des places, c'est vrai qu'il est, il est extrêmement élevé. Et les abonnements, c'est le double de Milan, de la Roma, de Naples, etc. Mais attention, les abonnements à la Juve ont toujours été un peu plus chers et le stade était plein quand ça gagnait. Là, le stade, il est pas plein, non pas seulement parce que ça ne gagne plus, mais parce que les prestations sont cataclysmiques. Et ça aussi, dans la réflexion d'Agnelli et d'Arriva Bene, enfin surtout d'Agnelli, lié au montant à verser à Allegri en cas de départ, tu dois tenir compte de ça. Parce que là, tous les sièges vides, c'est des rentrées d'argent en moins aussi. Hein.
C'est évident. Et surtout, les supporters de la Juve seraient plus patients et plus cléments si, dans le contenu, que ce soit dans un match ou dans une défaite, et même voire dans une victoire, parce que rappelle-toi, la première pierre contre Sassuolo, la Juve, pour l'instant, a gagné contre Sassuolo Spezia, et voilà, c'est quand même assez très léger.
Mais avec Sampdoria, Spezia, Salernitana et Monza. Hein, sur cette journée, il y a ces quatre adversaires-là hein, qui sont attendus dans les places de la 15e à la 20e. Hein.
Évidemment. Mais tu vois, je pense que les joueurs de la Juve quand même connaissent le football et ils sont très plus patients s'ils voyaient un projet et un sens à leur équipe. Mais là, ils savent bien. Alors, imagine, la Juve voilà, revient de la pause. Voilà, ils gagnent. Alors, je n'ai pas clandé sous les yeux, mais ils gagnent leur premier match. Mais on a l'impression quand même que les supporters sont parfaitement conscients que même en cas de victoire, ou que tout est épisodique et qu'il n'y a aucun débouché à court ou moyen terme, il n'y a aucun projet, personne ne comprend le projet aujourd'hui. Mauricio Arriva-Bene parlait de 2 ou 3 ans pour Allegri, mais à quoi bon? Dans quel but et ça, Allegri, tu le disais, ne nous l'explique pas. On n'arrive pas à comprendre là où il veut emmener son équipe et quel sens il veut lui donner. Donc en plus, on pourrait aussi parler des problèmes physiques, parce que je vois quand même une équipe qui, au bout de 20 minutes à chaque fois, est capable de jouer au haut niveau, comme contre Benfica, mais qui, au bout d'un moment, s'écroule littéralement, même au niveau de la condition physique, au-delà des blessés. Donc des problèmes sur le terrain, il y en a 1000. Mais c'est vrai qu'à côté, si la Juve avait quelque chose de clair au niveau du projet, je suis persuadé que les supporters sont plus cléments et plus patients. Mais aujourd'hui, ils ont perdu justement cette patience, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre où va leur club, où va leur équipe, et où va leur entraîneur, et même voir leur direction.
Alors, juste pour le calendrier, après la trêve internationale, donc c'est Bologne, Haïfa, Milan, et encore Haïfa. Et attention, puisqu'on parle beaucoup du bilan d'Allegri, et un vrai gros point qui sera fait avant la trêve de la Coupe du Monde, je rappelle que dans les derniers matchs, il y a Benfica, Lecce, Paris Saint-Germain, Inter et l'AS Vérone, Lazio avant la trêve.
Ça fait un calendrier assez
copieux.
Ouais, assez copieux et on verra bien où la Juve sera avant le début du mondial. Mais c'est évident que si elle est trop loin du podium ou voilà, s'il y a eu
pas de qualif en 8e aussi.
Ouais, évidemment. Et ça semble quand même mal parti. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on a l'impression de ce qui file ce côté Juve, c'est que la confiance est maintenue en Allegri. Par contre, il faut la svolta, donc le déclic assez rapidement. Sinon, sa position va vraiment devenir intenable, même pour lui. Si le stade se vide vraiment, comme l'appel au boycott a été fait sur les réseaux, si vraiment il n'y a aucun progrès dans le jeu et dans les résultats, au bout d'un moment, ça ne pourrait plus être tenable même pour lui.
Et petite pensée quand même pour Vlahovic, hein. Voilà, ouais. Qui a fait des pieds et des mains pour la Juve. Et bon, compliqué.
C'est pas faux d'en avoir parlé déjà à l'époque. Hein.
Exactement. C'est sûr que passer d'Italiano à Allegri, faut clairement se mouiller la nuque, les avant-bras. Et tout le reste. Guillaume, on va passer à la Lazio. Alors l'ordre, pour faire très simple, hein, j'ai repris l'ordre des grands clubs de l'épisode précédent sur les un club, un joueur. Donc il n'y a pas de parti pris éditorial, c'est simplement un peu de fainéantise au moment de préparer cet enregistrement. Guillaume, on parle de la Lazio, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 3 points sur 6 en Europa League avec le vrai accro à Mitulan, oui, l'humiliation 5-1.
Très gros accro.
Ouais, les clubs romains et les pays scandinaves, c'est tout un programme. Après le 6-1 de la Roma à Bodø/Glimt, le 5-1 de la Lazio à Mitulan.
Par contre, ça fait quand même du 11-2 sur deux matchs.
Exactement.
C'est quand même hallucinant.
Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison de la Lazio qui, si je ne me trompe pas, est quatrième au moment de cette trêve?
Écoute, déjà, j'ai l'impression que la grève prend un peu. Alors, on va vraiment passer outre ce qui s'est passé jeudi, parce que même les propos de Sarri, tu sais, après match, ont été quand même assez.
Mais on peut commencer par là, si tu veux, ou en parler après.
On peut commencer par là quand même. Voilà, comme tu l'as dit, la défaite a été assez difficile à digérer à ce titre. Et surtout, Sarri, après le match, a dit que voilà, il avait l'impression quand même qu'il y avait un peu de laxisme au sein du vestiaire, mais venant d'une graine qui émerge. Et lui a dit qu'il fallait l'éradiquer. On le cite ses propos quand même. Donc,
c'est un peu le verre est dans la pomme, quoi.
Voilà, exactement. C'est des propos assez troubles, voire même assez durs. Mais bon, après une telle défaite, ça peut aussi se comprendre. Et lui a dit quand même, si c'est moi le problème, je suis prêt à faire un pas en arrière.
Ce qui est fou. En gros, ça veut dire partir.
Voilà. Exactement. Donc, alors, toi, on peut revenir évidemment sur la belle victoire contre la Cremonese dimanche. Victoire assez simple parce que la Lazio aussi a su se la rendre simple. Après, je pense qu'il y a eu une réaction d'orgueil aussi par rapport à ce qui s'est passé jeudi et peut-être aussi de soutien à l'entraîneur après ses propos qui, je pense, voilà, a voulu aussi piquer le vestiaire après ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que parfois, la Lazio a quelques trous d'air dans ses matchs ou dans ses prestations. Et je dis vraiment, tu vois, tu peux pas, mais comme la Roma la semaine dernière, hein, tu peux pas, même en Europa League, disputer ce genre de match-là et faire ce genre de figurage. Et en Europe, c'est pas possible. Surtout que la Lazio, quand même, en championnat, a montré des belles choses. Moi, quand je repense à ce match quand même contre l'Inter, alors certes, l'Inter est dans une période pas très simple en ce début de saison, mais j'ai vu quand même une Lazio qui est en progrès, qui arrive quand même à greffer une partie de ses recrues. Je vois une défense aussi qui est plus solide. Alors, évidemment, après jeudi, c'est plus compliqué à dire, mais voilà, on va dire qu'en championnat, c'est beaucoup mieux. Et j'ai l'impression quand même que la greffe a un peu plus pris entre Sarri et son vestiaire. Après, voilà, il faut quand même donner de la continuité et essayer de confirmer quand même au fur et à mesure des matchs. Quand tu as des trous d'air une fois tous les 3-4 matchs, c'est sûr que c'est compliqué, mais je vois quand même un Immobile qui arrive à garder son Immobile. Il faudra quand même qu'on en parle un jour de son niveau avec le recul qu'il a eu avec Lazio. Hein. J'ai vu son nombre de buts qu'il a inscrit. C'est quand même assez dément. Milinkovic-Savic qui, malgré tout, est toujours là et qui arrive à rester au très très haut niveau. C'est vraiment, on le sait tous, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Luis Alberto quand même qui prend aussi un peu sur lui après ce qui s'est passé cet été. Ça n'a pas été simple. Il a voulu partir, mais il n'est pas parti. Il est resté. Donc la Lazio en tout cas est, voilà, c'est encore une fois, si on passe au-dessus de jeudi, est quand même une équipe, voilà, qui réussit son début de saison. Après, voilà, après la trêve, va falloir confirmer. T'as des joueurs qui partent en sélection, mais voilà, t'as aussi cet accro contre le Napoli, Johan, tu sais, qui c'est un peu le couac du début de saison parce que tu menais et voilà, t'aurais pu tenir quand même au moins ne pas perdre. Mais il faudra aussi voir quand même au retour de la trêve, je disais, parce que tu vas quand même aller à Florence contre la FIO, tu vas recevoir l'Udinese, qui est quand même une équipe surprise en début de saison. Tu vas à Bergame dans la foulée, tu as le derby, hein, début novembre,
ouais,
qui sera un gros match, tu as la Juve. Donc en fait, tout va s'enchaîner et on va vraiment voir l'examen un peu de maturité de la Lazio, parce qu'avant la trêve pour le Mondial, il y aura des matchs un peu couperets et qui pourront en dire un peu plus long sur le potentiel et vraiment sur ce qu'a la Lazio dans le ventre.
Mais je suis d'accord avec toi sur l'équipe qui, ou en tout cas on voit du progrès dans le jeu. Moi je trouve qu'il y a de plus en plus de phases travaillées que l'on voit en construction lente, et ça c'est intéressant, parce que je le répète, la saison dernière, la Lazio n'a jamais été aussi forte que quand elle contrait, qu'elle faisait beaucoup de transitions. Attention quand même, c'est un truc que je répète régulièrement, mais c'est une équipe qui surperforme énormément offensivement, notamment grâce à Immobilier, mais pas que. C'était déjà le cas la saison passée, et il y a toujours le fameux risque. Et si ça s'arrête, si t'as moins de réussite devant le but, qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi de Cagliari. Tu te souviens quand Cagliari était quatrième de Serie A il y a quelques saisons, et qu'on voyait dans les chiffres qu'il surperformait totalement.
Avec Maran,
voilà. Et ça s'était arrêté du jour au lendemain. Et derrière, c'était la dégringolade. Alors, la Lazio a quand même des individualités, un collectif et un entraîneur même autre pour éviter cette dégringolade. Mais attention, parce que là, je regardais encore sur le début de saison, la Lazio a joué 9 matchs. Il n'y a que 3 matchs où la production offensive est supérieure à l'adversaire. Si on utilise les expected goals. Donc, c'est quand même pas énorme. Et juste pour redonner, toujours en travaillant sur ses expected goals, la Lazio, c'est l'équipe qui surperforme le plus aujourd'hui en Italie. Ils sont à 9 expected goals pour 13 buts marqués. Pour donner une idée, en allant toujours, et on en parlera plus tard sur le club romain, donc 13 buts pour 9 expected goals. La Roma, c'est 8 buts pour 15 expected goals. Donc t'en as une qui surperforme totalement et une autre qui sous-performe totalement. Alors celle qui sous-performe, tu peux te dire, bah, quand les attaquants auront de la réussite, bon bah ça devrait s'améliorer. Ceux de la Lazio, c'est l'inverse. Tu te dis, s'ils ont un peu moins de réussite, que va-t-il se passer au niveau des résultats? Et pour revenir, j'ai pensé à ça quand tu as évoqué, tu sais, les propos de Sarri après Midtjylland. Tu as vu comme moi qui était remplaçant le match d'après à Cremone.
Oui.
Luis Alberto. Et alors, j'ai pas lu de problème physique ou chose comme ça, notre ami Romagnoli.
Oh, ton poulain.
Mon capitaine de pédalo.
Rappelons-le.
Quand Sarri parlait du manque d'exigence, de prendre parfois les matchs un peu par-dessus la jambe. Bon, il y a eu deux choix forts quand même à Cremone. C'est Luis Alberto sur le banc, pas la première fois cette saison, et Romagnoli sur le banc, sans doute la première fois de la saison.
Presque aurait fait le même choix, tu vois, si le match avait été un peu plus dur sur le papier. C'est toujours la même question. Ouais. C'est vrai que autant Luis Alberto, voilà, après il était compliqué, c'est vrai qu'il a été un peu plus sur le banc. Romagnoli, c'était plus étonnant parce qu'il était quand même. On en parlait la semaine passée dans le podcast qu'on a fait. C'était quand même un peu le leader, tu vois, de la défense. C'était même comme ça qu'il était décrit dans la presse romaine. Et c'est vrai que le voir sur le banc. Dimanche après la déroute de jeudi, c'était assez surprenant.
Ouais. Peut-être qu'il n'était pas à 100% et que ça n'a pas été
bien dit, sûr.
Voilà, il faut rester prudent.
Le match sur le papier quand même était voilà. Alors, j'ai pas envie de dire simple parce qu'il n'y a pas de match plus simple. On va dire voilà, il était plus simple que d'autres. Après, on verra aussi retour de la trêve quel 11 il alignera, mais. Certain que voir Romagnoli sur le banc dimanche après le début de saison qu'il avait fait, ça a pu étonner certains. Après, c'est vrai que j'ai pas vu, tu vois, de retour même dans la presse ou de sur un possible choix. En tout cas, il était pas blessé, visiblement. Mais en tout cas, voilà, il y a rien eu d'éclatant, pour dire.
Et juste pour souligner quand même un instant le très bon début de saison de Provedel, qui était arrivé pour être remplaçant plutôt. Et qui se retrouve titulaire après la boulette de Maximiano dès la première journée et son expulsion.
Je t'en souviens, incroyable.
À la sixième minute.
Boulette, ouais.
Et Provedel fait vraiment un très très bon début de saison.
On en a parlé. Hein.
Exactement. Guillaume, on passe au Milan. 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 4 sur 6 en Ligue des Champions contre Salzbourg et le Dinamo Zagreb. Moi, ce qui me plaît avec cette équipe, c'est que la qualité de jeu, elle est toujours là. Elle est identique à la saison passée. Que comme le Napoli, c'est une équipe avec un jeu très européen, c'est une expression qu'on aime beaucoup en Italie, mais c'est pour, en gros, ce que ça veut dire un jeu européen, c'est que c'est un jeu qui s'inscrit dans la période actuelle de l'évolution du football, et c'est un jeu qui doit te permettre d'être compétitif en Europe, parce que tu élèves ton niveau de jeu et tu as une approche que d'autres grands clubs européens ont, on pense à des clubs anglais, à des clubs espagnols, au Bayern, etc., où l'approche c'est prenons le ballon et allons faire mal à l'adversaire. Et quand on n'a pas le ballon, eh ben on va faire mal à l'adversaire en pressant pour le récupérer rapidement. Et d'ailleurs, Guillaume, c'est pas un hasard non plus si On a eu l'un des meilleurs matchs de la saison.
Exactement, c'est ce que j'allais te dire.
Il y a 48 heures entre Milan et Naples, parce que c'est les deux équipes qui ont ce football-là le plus proche des réalités européennes.
C'était un super match. Côté Milan, c'est vrai que tu faisais quand même sur ton meilleur joueur, qui était évidemment Rafa Leão. Naples aussi était sans Osimhen, mais c'est certain que... Au vu du Osimhen du début de saison et du Leão quand même qui performe toujours autant, malgré quelques trous d'air.
Et des solutions de remplacement. D'un côté, tu as Simeone, Raspadori, et de l'autre, tu as Selmaker.
T'as Rebic qui est blessé.
Voilà, exactement.
Donc, ça aide pas. Tu as Krunic aligné ailier gauche, ça pouvait surprendre. Mais tu vois, on en parlait avec Ayou tout à l'heure. Tu peux mettre n'importe quel interprète, toi même comme Pobega par exemple est bien entré en Ligue des Champions, a mis son premier but. En fait, Milan a cette capacité quand même, il y a une identité qui est claire, un jeu qui est clair depuis maintenant l'arrivée de Pioli sur le banc, qui s'est développé au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, il l'a dit, tu sais, Pioli, en conférence de presse, à un moment, il avait été interrogé sur les corners que frappe visiblement mal son équipe, et lui a dit, en fait, à l'époque, moi, je ne les travaillais pas parce que je n'avais pas le temps. Il y avait tellement de gros problèmes au niveau du jeu que ce genre de détails n'arrivent qu'après. Il dit, maintenant, aujourd'hui, on a une entité, on a un jeu, on sait quoi faire match après match. C'est des choses que j'ai même presque plus besoin d'entraîner. Donc, on va pouvoir se concentrer sur des petits détails comme les corners. Et on l'a vu encore dimanche, on a une équipe quand même qui a fait son jeu, qui a aussi été malchanceuse parce qu'elle tape deux barres, dont une assez énorme avec Calou sur le 2-1 en fin de match. Mais t'as une défaite, évidemment, reste une défaite. Mais je ne sais pas si, tu vois, cette défaite-là qui arrive.
Attention, Guillaume,
matchs,
n'utilise surtout pas le terme défaite encourageante parce que
non,
je
non.
te mets un carton jaune. Si c'est
non, 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 mais d'ailleurs, Pioli l'a dit, hein, il n'était pas content après le match, il a dit non, mais. On a perdu. On peut. En fait, il a eu une phrase très juste. Il a dit on ne peut pas perdre en jouant comme ça. Mmh. Et je suis assez d'accord sur ces propos-là. Quand tu joues comme ça, tu n'as pas le droit vraiment, au moins de ramener le match nul. Surtout que tu fais le plus dur en égalisant avec Giroud. Mais au niveau du jeu et du contenu, tu vois, t'as quand même quelque chose de toujours aussi sensé malgré la défaite. Au niveau du jeu, tu vois, c'est pas une défaite qui est très inquiétante à court terme. Par c'est contre, tu as des erreurs qui sont évidentes, comme sur le but de Simeone, où tu as un mauvais placement. Tu as encore une fois un problème. Bah, tu vois, tu parlais des expected goals avec Lazio. Milan est une équipe quand même qui a toujours du mal dans la finition à transformer toutes ses occasions, parce que tu en as encore beaucoup dimanche. Et notamment au premier mi-temps, tu peux prendre l'avantage et tu ne les transformes pas. Et évidemment, à un moment, ça se paye. Naples n'en a pas eu beaucoup. Honnêtement, je n'ai même pas souvenir d'un arène Ménian. Et pourtant, ils mettent deux buts et ils repartent avec les trois points. Donc, c'est aussi ce genre de match qui peut faire la différence pour le titre. Mais on va dire que dans le contenu, en tout cas, j'ai vu une équipe avec le même jeu, la même identité, malgré l'absence de Leão. C'était quand même une grande question, Yohann, avant le match. Hein. Savoir ce que donnait ce Milan-là sans, entre guillemets, la dépendance que pouvait avoir Leão sur le jeu. Parce qu'au niveau des buts et des passes dés, Leão, c'est quand même des chiffres assez élevés. Là, sans lui, on a vu une équipe qui s'est procurée toujours autant d'occasions, qui pêche encore dans la finition, qui prend trop de buts depuis le début de la saison, parce qu'ils ont déjà encaissé 8 buts, pardon. Et c'est quand même déjà assez énorme. Tu en as pris 2 contre l'Inter, 2 contre l'Udinese, tu en as pris 2 encore contre Naples, tu en as pris 1 à Salzbourg, tu en as pris 1 contre le deuxième match en Ligue des Champions.
Il y a très peu de clean sheet alors que c'était voilà, une des forces l'année dernière.
Ouais, il y en a 2, hein. Il y en a 2 depuis le début de la saison. Donc, contre Bologne et il manque d'un contre Sassuolo. Bologne-Sassuolo, c'est pas énorme. Et il y a quand même un problème peut-être d'équilibre. Et voilà, on sent que la défense est plus friable. Mais on va dire que voilà, globalement, je ne parlerai pas de défaite encourageante pour ne pas t'irriter, mais disons que c'est une défaite du moins qui n'est pas inquiétante, tu vois, au niveau en tout cas du jeu, même s'il y a des choses encore à corriger. Et Pioli l'a dit en conférence de presse après le match, il n'était pas content malgré la prestation.
Ce qui me marque, moi, c'est que j'ai l'impression de voir surtout l'équipe de la saison dernière, c'est-à-dire que dans les recrues, De Ketelaere est un peu dans le dur, mais encore une fois, il y a vraiment zéro anticipation à faire sur ce qui va se passer, parce que pour moi c'est un formidable joueur et je suis pas spécialement d'accord avec l'analyse de Pioli qui dit qu'il est en, tu vois, j'ai pas vu de différence entre le De Ketelaere de Naples et le De Ketelaere des matchs précédents. j'ai pas vu plus de choses en fait. Et on voit pas trop les Adli, les Thio, bah Origi malheureusement blessé. Donc on a vraiment un bloc de la saison passée qui reste ultra performant. Donc là aussi tu te dis quand, alors il y a Pobega qui s'est un peu montré, mais tu te dis quand les nouveaux seront intégrés à la rotation et qu'ils seront en capacité d'amener quelque chose sur 20, 30, 40, 90 minutes, bah le Milan aura des ressources en plus. Et ça sera intéressant parce que peut-être que Pioli prend un peu plus de temps que les autres pour intégrer ses recrues. Souviens-toi de Kalulu, juste un exemple parmi tant d'autres. Mais une fois qu'elles sont bien intégrées, qu'elles ont bien compris ce qu'on attendait d'eux et les mécanismes de jeu, par contre, là, ils sont disponibles et performants tout de suite. Donc ça sera intéressant de voir. Et moi, il y a une dernière chose que je veux souligner, parce que tu as très bien parlé du terrain et je ne veux pas en rajouter. Mais moi, le discours de vérité de Pioli, j'adore. Pioli, quand son équipe ne joue pas bien, il le dit. Je trouve que ses lectures de match généralement sont très bonnes. C'est pas contrairement à Mourinho et Sarri, que moi j'appelle les tontons chouineurs. Pioli il parle quand même très peu d'arbitrage, même si parfois il y aurait peut-être des choses à dire. J'aime ses explications quand on lui pose des vraies questions tactiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le discours des journalistes avec Pioli est différent de celui qu'Allegri. À Pioli, on lui pose des questions tactiques. À Allegri, on parle de la pluie et du beau temps. On évite de le mettre trop en difficulté. Et j'aime beaucoup cette transparence et ce fait de jamais se cacher. Et moi, je me souviens du match à Salzbourg qui n'est pas bon. Mais d'ailleurs, le match de Salzbourg n'est pas bon non plus. C'était vraiment un mauvais match des deux équipes. Bah lui, il va pas dire si, on a fait un très bon match, je suis très content des joueurs, etc. Non, il dit on a fait un mauvais match. Et il n'y a pas de problème à le dire. Et je pense que ces joueurs, ils lui en tiennent par rigueur. Voilà, je tenais à souligner ça parce qu'on a beaucoup parlé de communication dans la partie sur la Juve. Et on pourrait en parler sur Sarri, qui lui passe son temps à désinguer les arbitres et à même t'expliquer que le championnat est faussé volontairement par les arbitres. Mourinho qui se plaint aussi sans arrêt des arbitres. Bon, il y a un peu plus de classe à Milan.
Mais tu sais, Pioli, il a su quand même évoluer. C'est un entraîneur qui a beaucoup évolué hein, depuis son arrivée à Milan. On l'a vu avec le temps. À la base, c'était quand même un entraîneur très italien, tu sais, Johan, voilà, ouais. avec une tactique assez claire. Aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression qu'avec le temps, il a évolué. Il est presque tombé amoureux, tu sais, de la tactique. Là, contre Napoli, il savait très bien que Léo n'allait pas être là parce qu'il était suspendu. Et il a su s'exalter dans cette absence-là en essayant de trouver une parade, qu'il a trouvée d'ailleurs, parce que, bon, certes, la défaite est là, mais dans le jeu, tu as su quand même faire face à cette absence qui est quand même assez grosse, qui est probablement la pire, même pour Milan. Et même dans son discours, c'est quelqu'un qui, humainement, a su évoluer, a su faire grandir sa pensée autour du football et réapprendre presque ses façons de travailler depuis son arrivée à Milan. Et lui-même le dit dans ses interviews et dans ses conférences de presse, où vraiment aujourd'hui, il prend un goût énorme à travailler la semaine. Et tu vois, ça contraste peut-être avec ce qu'on disait avec Allegri tout à l'heure, où lui adore chaque semaine, chaque jour, chaque heure de chaque entraînement, travailler la tactique en vue du match et inventer des choses, créer des… apprendre par exemple à Tonali de jouer quasiment numéro 9 à Vérone l'année dernière, faire rentrer Thomas Hernandez dans l'axe. Enfin, il y a plein de choses, plein de parades tactiques que lui arrive à trouver et c'est quelque chose qu'il a su faire avec le temps parce que l'humain Pioli a su évoluer. Mmh. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Allegri, et qu'il reste enfermé dans ce personnage-là. Lui, Pioli, est quand même parvenu à gagner un titre, probablement pas avec la meilleure équipe, mais avec les idées les plus claires. Et c'est aussi quelque chose de club, Johan, parce qu'au-delà de Pioli, tu as quand même un club qui est censé, qui a un projet cohérent bah, dans ses recherches de joueurs, ses recherches de profils. Tu as une unité qui est claire entre le projet voulu par le propriétaire et qui est aussi maintenu et soutenu par le duo, par le trio Maldini, Massara, Moncada, les 3M, et Pioli qui est là pour mettre en pratique toute cette nouveauté-là de manière européenne, comme tu disais, par rapport au jeu. Donc, tout ça compris fait que Pioli, vraiment, aujourd'hui, est un entraîneur totalement différent du Pioli qu'on a pu connaître à l'Inter, qu'on a pu connaître à Lazio et qu'on a pu connaître à Florence. Aujourd'hui, c'est un nouvel entraîneur, c'est même un nouvel homme. Et on le voit au niveau du jeu, c'est quand même une équipe quand même qui a une identité, qui a un jeu. Et je trouve ça quand même assez plaisant de voir que les entraîneurs peuvent évoluer aussi dans la façon de penser.
On parle tout de suite mieux des entraîneurs qui aiment entraîner, hein, c'est marrant.
C'est vrai.
Bon, Guillaume, on passe au Napoli.
Oui.
5 victoires, 2 nuls en 7 matchs. Leader invaincu de Serie A, 6 sur 6 en Ligue des Champions.
Un début de saison, là, Spalletti.
Voilà, exactement. C'est un début de saison. Je vais dire quasi parfait, même si je pense qu'il est parfait, mais juste le petit accro de Lecce qui avait fait tellement parler. Mais du jeu et des résultats, tu l'as dit, la patte Spalletti, meilleure attaque avec 15 buts, les recrues qui fonctionnent très bien,
oui.
Notamment Kim et Kvaratskhelia, mais aussi Simeone. Il n'y a que Raspadori qui, pour le moment, a un peu plus de difficultés, même s'il a marqué à Glasgow. Elle est plaisante, hein, cette équipe de Naples.
Écoute, on en parlait un peu en off tout à l'heure où on parlait un peu de Spalletti qui arrive à s'exalter quand le vestiaire est assez homogène, on va dire sans gros égo et sans grosse tête. Et c'est vrai que là, on le voit parce que, alors De Laurentiis d'ailleurs s'est enlevé un peu une épine du pied en disant, moi je vous l'avais dit avant le début de la saison que cette équipe-là pouvait faire de grandes choses. Pour l'instant, c'est le cas. Après, il faudra attendre un peu parce que avec Spalletti, j'ai l'habitude des gros débuts de saison, comme la saison dernière, et comme il a pu le faire aussi jadis avec la Roma. Mais là,
très belle utilisation du mot jadis.
Bien sûr, mais j'en fais une par podcast. je les note et aujourd'hui c'était jadis. Donc je peux le surligner et dire qu'elle a été faite.
Magnifique.
Mais en tout cas, voilà, il y a une équipe qui joue bien au football, qui s'éclate sur le terrain. Et tu vois, dimanche contre Milan, bah, j'ai vu un autre visage même du Napoli qui est capable aussi parfois de jouer un peu plus bas, d'attendre et de gagner, peut-être sans le mériter vraiment, mais ça, c'est des victoires qui comptent, hein, pour la suite. Et voilà, ça n'a pas été le meilleur match du Napoli cette saison, mais ils sont capables aussi d'arracher des victoires dans la difficulté, dans la douleur. C'est une équipe qui sait souffrir. Je me souviens de l'intervention de Kim à la dernière seconde sur un coup de tête de Brahim Diaz où il exulte, tu vois, comme un fou. Donc c'est aussi une équipe qui sait s'exalter non seulement dans le jeu mais aussi dans les difficultés. Et c'est vrai que tu t'en parlais, hein, le mercato pour l'instant est réussi parce que Kvaratskhelia fait encore un bon match dimanche. Alors c'est peut-être pas son meilleur, mais voilà, il a encore averti Calabre et Akier, hein, qui a un flux sur la suite du match. Il obtient le penalty. Il fait beaucoup de différence même dans les prises de balles. Donc voilà, c'est une équipe pour l'instant qui, pour moi, en tout cas, fait le début de saison parfait. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Par contre, voilà, il va falloir le maintenir et surtout, Johan, rester calme et garder son sang-froid aux premières difficultés. Surtout ne pas tomber dans le drame et dans le cataclysme permanent quand les premiers accrocs vont arriver, parce qu'ils vont quand même arriver un moment. On sait que l'année dernière, ça leur a coûté cher. Au Napoli, moi, j'ai vraiment cette défaite face à Empoli, vraiment qui avait suscité le gros drame qui a coûté cher, hein, dans la course au titre, même contre la Roma, le nul contre la Roma, un partout à domicile. Là, le Napoli va devoir garder son calme et garder son sang-froid dans les moments les plus compliqués. Et Spalletti devra aussi y parvenir. On sait que parfois, il a tendance aussi à un peu s'éparpiller quand ça devient plus compliqué. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Et pour l'instant, en tout cas, c'est très prometteur. Ce début de saison.
Savoir gérer ses émotions, pas toujours très simple à Naples, pas toujours très simple à la Roma, c'est deux clubs qui sont comme ça, toujours dans l'excès d'un côté ou de l'autre, et il va falloir effectivement gérer là un petit peu l'euphorie de la première place déjà, ensuite gérer les moments où ça sera un peu plus compliqué. Juste pour revenir sur les recrues, hier à la radio, il y a un auditeur qui a appelé et qui me dit... Enfin, qui pose une question en disant est-ce que c'est pas l'équipe qui s'est le plus renforcée, le Napoli, cet été? Et en fait, moi, je lui disais, en fait, c'est pas ça. C'est juste l'équipe qui a le mieux remplacé ceux qui sont partis. Parce que, de base, t'as perdu Fabian Ruiz, t'as perdu Koulibaly, t'as perdu Insigne, t'as perdu Mertens, t'as perdu Ospina. Tu les as tous remplacés, mais on peut pas dire que l'effectif est éminemment plus fort que la saison passée.
Non.
Donc c'est pas renforcé. Renforcé pour moi, c'est la Juve qui achète, enfin qui prend plein de joueurs. Et là, l'effectif s'est renforcé. C'est la Roma, l'effectif s'est renforcé. La Lazio, l'effectif s'est renforcé. Même le Milan, l'effectif s'est renforcé. Le Napoli, simplement, c'est que les recrues affichent un tel niveau qu'aujourd'hui, on est capable de dire de manière peut-être même un peu trop rapide et un peu trop anticipée, et tu l'as comme lu comme moi dans la presse italienne, ah bah, ça y est, on a déjà oublié Koulibaly, on a déjà oublié Insigne, on a déjà oublié Fabien Ruiz. Alors l'échantillon est un peu court, mais c'est pour montrer à quel point les recrues ont réussi à s'intégrer et à être à un niveau de performance très important. Et je voulais juste en profiter pour parler un tout petit peu de Lobotka et de Zambo Anguissa. Milieu de terrain qui est extrêmement complémentaire, avec un Lobotka, moi, qui me rappelle direct, Guillaume, tu t'en souviens, de David Pizarro à la Roma, époque Spalletti. Le petit milieu de terrain placé devant la défense, qui fait des différences, qui est capable de se sortir de la pression par des feintes de corde au jeu, qui est capable d'accélérer sur les premiers mètres pour aussi casser des lignes de pression ballon au pied, qui a un excellent jeu court, excellent jeu long, qui est même parfois capable d'accompagner les actions. Et puis à côté, Zambo Anguissa, qui fait des différences physiques monstrueuses, mais pas simplement physiques, des différences techniques aussi, parce que c'est un bon dribbleur, des dribbles courts, qu'il est capable de se projeter, qui fait un gros travail défensif, qui sans ballon va toujours chercher à le récupérer. Vraiment cette paire de milieu de terrain, tu vois, quand je prends la paire de milieu Bennacer Tonali qui me plaît beaucoup, je prends à l'Inter c'est un peu difficile parce qu'il joue à 3, mais par exemple un Brozovic Barella ça me plaît beaucoup, et que je vois donc Lobotka, Zambo Anguissa, et ça va permettre de faire la transition avec le club suivant. Quand je vois ces milieux de terrain-là et que je vois Matic Cristante à Rome, et je me dis que c'est logique en fait d'observer ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que tu as deux milieux de terrain qui sont dynamiques, toujours en mouvement, extrêmement techniques, rapides de décision. Donc ça fonctionne, ça aide ton projet de jeu collectif.
C'est des milieux modernes.
Voilà, des milieux modernes. Ouais. Et en face, tu as des milieux lents de corps et d'esprit. Tu as des milieux de terrain qui sont pas ultra fiables techniquement, qui sans ballon ne font pas un travail monstrueux, qui avec ballon n'apportent quasiment rien. Bah, c'est logique d'avoir un football beaucoup moins évoluer, moins léché, ça nous permet de faire la transition avec
oui. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Moi,
passons à la Roma. Roma-Atalanta.
Moi, j'avais dit un soir, pour moi, Cristante et Matic, ça met dans une foire agricole aux côtés des tracteurs. Voilà, parce que ces joueurs-là sont des tracteurs. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu réducteur, exagéré, amplifié, tout ce que vous voulez, mais tu ne peux avoir aucune ambition dans le jeu avec deux milieux de terrain des années 80. Pour moi, c'est impossible. Et on a vu la différence, par exemple, lors du deuxième match contre Bergame, quand Pellegrini est repassé au milieu de terrain.
Est-ce que c'est pas finalement des milieux mourignesques, j'ai envie de dire, dans la...
Ouais, mais c'est voilà. Même pas, parce que regarde, quand tu prends le milieu de terrain de Mourinho à Chelsea ou le milieu de terrain de Mourinho à l'Inter... Chelsea première époque ou l'Inter, regarde à l'Inter, t'avais un Thiago Motta qui était impeccable, un Dejan Stankovic qui était ultra mobile. Là t'as pas ça quoi. C'est... Pour moi c'est vraiment, je dis le football des années 80, mais ça pourrait être le football des années 50 en fait. C'est vraiment, c'est lent quoi, il se passe rien. Sans ballon ils sont pas capables d'aller presser. Et... Vraiment c'est.
Après le blessure de Wijnaldum aussi a n'a pas fait du bien dans...
Bien sûr, mais tu vois, Guillaume, t'as quand même des profils autres sur le banc. Maddy Camara, que t'es allé chercher à l'Olympiakos. Voilà, qui n'est pas un grand milieu de terrain, mais c'est un milieu de terrain qui t'apporte beaucoup plus de choses en termes de dynamisme, de mouvement, d'énergie. Voilà, même un joueur comme Bové. Bové, qui est plutôt à l'origine un trequartista, mais qui, comme Pellegrini, peut jouer au milieu de terrain, qui t'apportera beaucoup plus de choses. Là, je suis désolé, c'est à la fois du conservatisme slash expérience. En gros, Matic, pour Mourinho, c'est mieux d'avoir des joueurs d'expérience, mais c'est à la fois surtout un choix. C'est-à-dire que tu peux pas te plaindre de la blessure de Wijnaldum quand t'as deux autres profils sur le banc qui sont certes moins expérimentés. Mais Zalewski, l'année dernière, était moins expérimenté que Vigna. Hein. Et bizarrement, il a quand même réussi, fini par faire jouer Zalewski. Donc peut-être qu'il finira par faire jouer Camara ou Bové ou en attendant le retour de Wijnaldum. Mais c'est clairement un choix de Mourinho et là-dessus, il ne peut pas se plaindre. Hein.
Et c'est pour ça que quand je te dis des milieux Mourinho, c'est par exemple pour le profil, mais toi, par rapport au choix que lui préfère aller chercher par un massif sur le mercato qui est libre et qui est quand même en fin de carrière. Quand je le dis, ses plus belles années sont derrière lui. Et qui, au-delà d'aller le chercher pour apporter peut-être ce côté expérience à un groupe qui en a besoin, c'est qu'il préfère l'aligner par rapport à d'autres profils qui, quand même, sont plus adaptés au football d'aujourd'hui, au football moderne, et peut-être aussi au football qui a envie de pratiquer la Roma, parce que la Roma aujourd'hui a quand même une traction offensive qui est importante, parce que les Pellegrini, les Dybala, alors qu'il n'était pas là dimanche, il s'est baissé à les joueurs, mais les Abraham, Bellotti, Chomorio, en fait, c'est quand même Zaniolo. Une traction offensive. Zaniolo, évidemment, qui a fait un super match le dimanche et qui est revenu de manière assez tonitruante, mais tu as quand même une équipe à traction offensive. Et quand tu veux filtrer justement cette force offensive-là, comme par exemple, Johan peut le faire à Milan parce que filtrer les Leao, les Decatelaire, les Giroud. Enfin, t'as quand même aussi une équipe à traction offensive. Rebic, Chorich, t'en as beaucoup.
Ouais, regarde le Napoli. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le Napoli. Hein.
Lobotka en dit ça. T'as Benacer Tonali. Et là, avec Matic Cristante, tu peux pas suivre même les transitions défensives. Et rappelle-toi, même les premiers matchs de la saison, tu voyais que parfois sur les transitions défensives, même contre la Cremonese, où la Roma s'impose. Mais t'as quand même la Cremonese qui a eu beaucoup d'occasions sur les transitions offensives. Donc tu sens que la Roma parfois aussi a du mal un peu à suivre le rythme parce que son milieu de terrain n'arrive pas à filtrer ces transitions là. Donc après voilà, quand je disais Mourinho, c'est parce que Mourinho préfère aligner ce milieu là que aligner des profils plus dynamiques et plus enclins à pratiquer le football moderne et le football que devrait pratiquer la Roma aujourd'hui.
Et ce qui fait que tu as une attitude beaucoup plus attentiste, tout simplement parce que tu ne peux pas les presser haut avec ces joueurs-là. Tu ne peux pas. Et ce qui fait que quand les offensifs le font, l'équipe, elle est coupée en deux.
Exactement.
Parce qu'entre les offensifs qui vont presser et Cristante et Matic, tu as 40 mètres.
Exactement. Alors que Wijnaldum, peut-être, avait ce coffre-là, tu sais, pour... Dans le volume de jeu, du moins.
Ouais, mais pour moi, enfin, je sais pas, hein, mais pour moi, Wijnaldum, c'est pas un milieu de terrain pour jouer à deux. J'ai du mal. Ses meilleures années, elles sont un cran plus haut, en faux 10, que ça soit d'ailleurs avec les Pays-Bas ou l'entente avec Memphis Depay, par exemple, était parfaite parce que Memphis était un faux 9 et Wijnaldum un faux 10, donc il y avait beaucoup de projections pour se servir des décrochages de Depay où Wijnaldum allait dans l'axe. Même chose à Liverpool où il était capable de se projeter et tout. Et moi, le recrutement de Wijnaldum pour le mettre dans les deux du milieu, j'ai pas trop compris, mais après...
Et est-ce qu'on peut aussi évoquer les expected goals de la Roma?
Je l'ai dit tout à l'heure pour la Lazio, et là, je le dis pour la Roma, 15 expected goals, 8 buts. Je
veux dire, c'est
dément, quoi. Je veux dire, c'est du simple au double. Et tu le disais dimanche, ils perdent un match qu'ils doivent gagner, pour reprendre l'expression de Stefano Pioli. Mais à la
du
fois...
Du moins, tu ne peux pas perdre ce genre de match-là quand tu joues comme ça.
Ouais, là, c'est ça.
C'est vraiment ça.
Et ça peut te montrer une voie à suivre aussi, tu vois, ce match-là. Ça peut te montrer qu'avec plus d'ambition, quand tu fais sortir un des deux tracteurs et que tu remets Pellegrini au milieu de terrain, c'est quand même mieux. Parce que Pellegrini fait plus le lien, parce qu'il est mobile, parce que il est capable de jouer dos au but, il est capable de se décaler un peu sur le côté, parce qu'il est capable de presser son ballon, parce qu'il a une telle qualité technique, une telle vision du jeu, une telle rapidité d'exécution, qu'il peut trouver des joueurs en mouvement très rapidement. Ça doit montrer pour moi, ce match-là, ça doit montrer à Mourinho ce que cette équipe est capable de faire avec et sans ballon, avec des profils différents. Et si tu décides de mettre Pellegrini au milieu de terrain, alors là, Dybala était un peu blessé, avant c'était Zaniolo, donc tu peux te dire, mais un Eduardo Bové. Moi, je pense que Bové, il peut tout à fait avoir un parcours à la Fratesi, dans un rôle différent. Mais pour moi, ce joueur-là, si tu lui donnes du temps de jeu, avec les qualités qu'il a, il peut arriver très facilement ou très rapidement à un niveau type Fratesi. Donc j'aimerais le voir plus. Et il faut reconnaître le courage de Mourinho à lancer Zalewski la saison passée. J'aimerais qu'il ait ce même courage pour lancer Bové et se dire, bah, ce que je constate, c'est que quand on a Cristante et Matic, on est lent, on a une équipe qui est coupée en deux quand les joueurs offensifs décident de les presser. Si on est attentiste, on ressort le ballon très lentement, donc les blocs, ils ont largement le temps de se remettre en place. Donc il faut... Mais c'est le football qui est comme ça. Il faut de plus en plus de dynamisme, de mouvement, de percussion, de rapidité d'exécution, de rapidité de pensée, de rapidité de vision. Il faut tout ça. Si tu les as pas, si tu renouvelles pas tes idées, tu renouvelles pas tes profils, tu perds du terrain. Et disons que ça serait décevant d'avoir une Roma identique à la Roma de la saison passée, c'est-à-dire irrégulière, capable de coups d'éclat, mais aussi de se rater de manière incompréhensible. Aucune continuité de résultats d'une semaine à l'autre. Ce serait très décevant. Après une saison dernière qui est réussie parce que tu as gagné la Conference League, de se dire que tu n'as pas réussi à capitaliser sur cette Conference League avec un recrutement qui t'a amené quand même beaucoup plus de profil et de profondeur et de qualité individuelle. Ouais, ça serait une vraie déception pour moi.
Moi, Johan, j'ai une question et une affirmation. Alors, est-ce que je commence par la question ou l'affirmation ?
Eh bien, tu commences par ce qui te fait plaisir.
Ah, donc l'affirmation, c'est que le calendrier de la Roma au retour, de la pause est quand même assez chargé parce qu'en l'espace de quasiment un mois, tu commences par l'Inter, alors tu as le Betis en Ligue Europa.
Mais au-delà qui est très important.
Ouais, évidemment, qui ne sera pas du tout un match simple.
Ah non.
Mais tu as aussi le derby le 6 novembre et tu as le Napoli le 23 octobre. Donc en l'espace d'un mois quand même, un peu plus d'un mois, tu as Inter-Roma, Roma-Naples et Roma-Lazio. En plus des matchs contre le Betis, donc ça va être servi. Donc ça, c'est l'affirmation. Et la question, Johan, que je voulais te poser, toi quand même qui connais bien l'environnement romain, l'ambiente romain, moi, c'est d'où vient, et on l'a un peu dit tout à l'heure, cette nervosité qu'on a pu voir sur les pénalties réclamées sur Zaniolo, un Mourinho qui tient sur le terrain, et surtout, avec la Roma, j'ai toujours cette sensation, on peut le lire parfois dans la presse, qu'on a l'impression que tu vois, il y a un climat qui est créé en disant, mais de toute façon, les arbitres ne nous aiment pas. Mais d'où vient ce climat-là? Parce que, tu vois, les deux pénalités sur Zaniolo, on voit bien que les deux, quand même, se tiennent plus ou moins le maillot. Enfin, voilà, c'est mitigé, c'est litigieux, mais on voit bien que la faute n'est pas dans un seul sens. Donc, mais on voit aussi que Mourinho rentre sur le terrain, on voit que les joueurs encerclent l'arbitre, on voit qu'il y a des contestations, on voit que c'est assez virulent. Et moi, vraiment, je ne comprends pas. Et je lis souvent ça dans la presse romaine, Non, mais de toute façon, c'est nous contre tout le monde. Et d'où vient ? Est-ce que ça vient de Mourinho ? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la Roma ou...
Non, ça remonte à très longtemps. Déjà, oui. Tu as en 81 le but de Touron et lors d'un Juve Roma qui a fait couler beaucoup de rancre où on a accusé clairement la Juve d'avoir volé le match, etc. Donc déjà, ça a ancré un espèce de sentiment d'injustice. Tu as aussi une injustice qui est plus liée à l'histoire de l'Italie, opposition Nord-Sud. En gros, les méchants du Nord, les puissants du Nord, veulent le mal du Sud. Et donc, même au niveau football, dès qu'on peut les humilier, on les humilie, quitte à gagner. Ça, c'est la pensée, hein, avec une erreur arbitrale. Tu as évidemment Mourinho qui arrive dans cet environnement-là, qui
adore.
Qui adore ça et qui joue sur cette provocation-là en permanence et qui, faut quand même se rappeler que l'année dernière, il avait été expulsé déjà pour, je sais plus à qui c'est, je crois que c'était à Peretto le geste de,
oui,
du téléphone, etc. Téléphone. Genre, on t'a appelé pour siffler contre nous, etc. Pour faire écho à son père, arbitre, etc., qui avait trempé dans les trucs. Voilà. Mourinho ne fait que souffler sur des braises qui sont toujours un petit peu en sommeil, mais qui, dès qu'on souffle dessus, se réactivent. Et puis, tu as des joueurs aussi qui se laissent un peu trop aller à ça. Et...
Évidemment. C'est bon, c'est
là, on touche au caractère des joueurs. Je pense qu'un joueur comme Zaniolo ou un joueur comme Mancini. Zaniolo, en fait, il faudrait simplement lui expliquer une chose. C'est qu'on ne te sifflera jamais une faute qui est réelle si toi-même, tu tires le maillot de
l'adversaire. Exactement.
Et ça, la VAR, il le voit. Arrête de tirer le maillot des autres. Il le voit, la VAR.
Et les deux fois, en plus. Hein.
Mais exactement. Fois, donc, hein. Même si, je me rappelle même plus, c'est une fois, c'est avec Ocoli, je crois, et l'autre, je me rappelle plus trop. Même si l'adversaire te tire le maillot, si toi, tu le tires aussi, même un petit peu moins, un petit peu après, un petit peu avant, peu importe, tu le tires.
Et le problème, c'est qu'il le tire le premier.
Ouais, plus, voilà. Mais ça, même si tu le tirais en deuxième, tu vois, un petit peu après l'autre, ça serait la même chose. C'est tirage de maillot contre tirage de maillot ou tirage de short contre tirage de maillot. Et je pense que si personne à la Roma lui explique ça, ben il n'a pas fini d'être frustré, la mise à Agnolo, parce qu'on lui sifflera rien. Alors, il y a des fois où c'est abusé. Tu te souviens de la déclaration de Mourinho quand il avait dit « Je conseillerais à Agnolo de quitter l'Italie parce qu'on lui siffle jamais rien », etc. C'est vrai que Agnolo, mais ça, c'est la réputation qu'il s'est créée en faisant ça. C'est-à-dire que c'est les arbitres sifflent moins sur Agnolo parce qu'il en a abusé parfois. Et maintenant, il y a des fois où tu te dis, mais comment il ne peut pas siffler ça ?
Tu vois, c'est comme Mourinho qui, après un match, dit, bah, je vais emmener mon équipe, l'entraîner à faire des plongeons.
Ouais.
Je crois.
Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai tirage de maillot, c'est avec Demiral, non ?
Le deuxième, ouais. Oui, je crois qu'il y en a un avec Ocoli et un avec Demiral.
C'est celui avec Demiral, je crois, où il lui tire et où il tombe pas, alors que c'est vrai que s'il tombe, je pense que...
Ah oui, quand il
il fait le tour, tu sais, un peu, voilà.
Il fait le tour pour pas que le ballon... Oui, exact.
Et là, je pense que...
S'il tombe, il y a pénalty.
S'il tombe, même si l'arbitre ne siffle pas, je pense que le VAR...
Il est dans la surface.
Le rappelle, parce que c'est typiquement les pénaltys du VAR. Mais bon, ça c'est un discours. Le match contre l'Atalanta, à la limite, il pose pas de problème dans le jeu et tu te dis que s'ils jouent plein de matchs comme ça, ils en gagneront plein.
Exactement, voilà. Exactement.
Mais
avec un Abraham en crise d'ailleurs, hein, depuis le début de la saison, compliqué.
Oui.
Hein. Il a dit d'ailleurs que pendant la pause, il allait se remettre un peu à l'endroit parce qu'il est en difficulté, mais il a promis qu'au retour, ça allait être un peu mieux parce qu'on a longtemps loué les qualités d'Abraham et qui est un excellent joueur, en plus d'être, je pense, un très bon mec. Ouais. Il a vraiment d'être un excellent type. Mais voilà, sans la finition, il a une grosse occasion encore là où il hésite clairement entre frapper et dribbler. Du coup, il fait un mélange des deux et le ballon finit en sortie de but. Mais voilà, ça prouve aussi qu'il a un peu un manque de confiance et qu'il a besoin peut-être de la trêve pour faire un peu reset sur le début de la saison parce que c'est lui vraiment le buteur de cette Roma-là. Et sans lui, la finition, c'est toujours un peu plus compliqué. On l'a vu encore dimanche contre l'Atalanta.
Guillaume, on passe à l'Inter. Notre Inter, un peu...
Autre cas épineux.
Bah ouais, un peu en confusion aussi, hein, un peu confuse cette équipe. Moi, le premier truc qui me marque, on en a parlé la semaine dernière hein, dans le podcast Un joueur, un club. Enfin, un club, un joueur en l'occurrence. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. C'est le retard physique. Moi, ça, c'est. Tu sais, je t'avais dit, mais comment tu peux être aussi à la rue physiquement quand tout le monde te dit depuis des semaines et des semaines qu'il va falloir partir très fort et que tu auras le temps pendant la trêve de refaire une préparation physique, la trêve de la Coupe du Monde. Et moi, je comprends. Bah, je comprends pas parce que cette difficulté physique, c'est pas simplement être en difficulté physique et tu te dis bah juste physiquement ils se font manger, c'est que ça amène des soucis dans le jeu parce que quand tu veux aller presser plus haut, t'arrives en retard dans tous les duels, t'arrives en retard dans toutes tes anticipations, donc ça crée des espaces énormes pour les adversaires et quand tu affrontes des équipes qui jouent en contre, typiquement l'Udinese, ça te crée des problèmes immenses parce qu'en plus eux ils pardonnent pas. Eux, sur le plan physique, ils vont t'assassiner. Ils vont pas te pardonner et eux, ils vont te rentrer dedans. Donc, si ton agressivité qui a fait ta force la saison passée aujourd'hui est inactive en raison du problème physique qui fait que tout ce que tu essayes d'anticiper ou tous les duels où tu essayes de rentrer fort, tu es en retard, bah, ça crée des vrais problèmes de jeu derrière et ça crée un peu un rétro-pédalage chez Inzaghi en te disant, comme on est en difficulté physique, on se met en danger sur notre jeu habituel, donc on va se recroqueviller un petit peu en défense et essayer de repartir en contre. Non, tu vois un peu l'enchaînement logique des choses et tout part des problèmes physiques, en fait.
Et t'as vu Gosens hein, qui a dit visiblement dans le vestiaire après Inter Bayern, que les joueurs du Bayern. Alors certes, ça reste les joueurs de Bayern, mais qui allaient deux fois plus vite qu'eux et qui n'arrivaient pas à les suivre. Donc ça confirme un peu aussi ce qu'on peut voir sur le terrain d'une équipe qui est en retard physiquement. Et tu vois, avant de faire le podcast, je lisais un peu la Gazzetta, et c'est vrai que même ces problèmes-là sont évoqués, où on cherche quand même aussi à comprendre ce qui a pu se passer cet été. Est-ce que ça n'a pas été trop chargé pour cet enchaînement tous les trois jours d'ici à la pause du mondial? Est-ce qu'il y a peut-être des erreurs faites par les préparateurs? On cherche peut-être des nouvelles têtes à intégrer dans le staff, un peu comme fait la Juve. Donc, il y a aussi des problèmes similaires entre les équipes, même si les mots ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, physiquement, moi, je vois deux équipes qui vraiment, après un certain nombre de minutes, vraiment s'écroule et n'arrive plus à suivre, parce que la tête te dit de faire quelque chose, mais les gens ne suivent pas. Et quand les gens ne tournent pas, malheureusement, tu ne peux pas faire le même jeu que tu faisais la semaine dernière, parce que là, Johan, c'est quand même la même équipe que la semaine dernière, parce que Lukaku est absent. Ouais. C'est quand même lui qui devait changer plus ou moins ta façon de jouer, ou du moins même ta phase offensive. Mais pour l'instant, là, on a la même équipe que la semaine dernière sans Perisic, qui est quand même une grosse perte. Qui n'arrive pas du tout à faire ce qu'elle faisait la saison dernière. Et surtout, Johan, il faut en parler aussi, on en a parlé d'Allegri, Inzaghi qui change 15 fois son équipe au cours de match. On va parler des changements assez rapides tout à l'heure, mais qui part avec une défense Skriniar, Achari, Bastoni jusqu'à la 31e minute. Alors moi, je me suis noté, ça commence par Skriniar, Achari, Bastoni, 36e minute, Skriniar, Achari, Di Marco. Deuxième mi-temps, tu démarres avec D'Ambrosio, Skriniar, Acerbi, et tu termines avec D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar. Donc Skriniar qui commence sur l'axe droit et qui finit central et qui finit sur l'axe gauche. T'as vraiment une confusion qui me paraît assez évidente de Inzaghi dans ses choix, où quand tu changes 4 fois ta défense dans le même match avec des joueurs les défenseurs qui dont les automatismes changent forcément par rapport à leur positionnement. Ça m'a étonné, en plus donc de ces deux changements quand même à la demi-heure de jeu, où aujourd'hui, avec le problème de ces 5 changements, Inzaghi décide à la 30e minute de changer Mkhitaryan et Bastoni. Alors autant le faire à la mi-temps, c'est une chose, et encore, moi, ça m'aurait beaucoup étonné. Alors, à la 30e minute, où je vois que les deux joueurs, en plus, forcément, sont très énervés, parce que si jaune était synonyme de remplacement, dans ce cas-là, il y en aurait pu s'en sortir. Donc, le problème des changements aussi, c'est que les entraîneurs aujourd'hui, dès que tu as un carton jaune, quasiment la sortie automatique. Alors là, je dois t'avouer, Yvan, que la demi-heure de jeu, pour moi, par deux changements tactiques pour un carton jaune, je crois que c'est une première, et c'est très rare.
Je ne m'en rappelle pas non plus.
Et voilà, au-delà de ça, en fait, et je sais que tu vas en parler après, et je te lance le sujet, Gosens,
lance-moi, mais pas trop fort.
Pas trop fort, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de Gosens? Tu changes 1000 fois ta défense dans le même match, et quitte à pas le faire jouer, tu trouves des parades sur le couloir gauche.
J'ai effectivement beaucoup de mal à comprendre le cas Gosens. Effectivement, les choix d'Inzaghi là sont un peu au cœur des discussions en Italie, et à juste titre, je trouve, même si c'est pas le seul problème, hein. On a parlé du problème physique, on a aussi des joueurs qui sont moins décisifs, on a aussi, je trouve, des joueurs qui réagissent pas devant les difficultés, donc ça, on peut pas le mettre que sur le dos d'Inzaghi. Mais le cas Gosens, tu te souviens la semaine dernière, dans le Un Club Un Joueur, j'avais choisi Gosens, et j'avais dit c'est un diesel, on le sait, il a passé un an sans quasiment jouer la moindre minute, alors j'exagère un peu, mais il a un petit peu joué, mais quasiment pas, en raison de blessures, et notamment d'une grosse blessure, et aussi de l'explosion après de Perisic, qui lui a coupé absolument toute possibilité de s'intégrer clairement dans le 11 titulaire. Et quelque part, tu vois, je me dis, je peux comprendre, au départ, je peux comprendre Inzaghi qui se dit, j'ai une obligation de résultat, j'ai pas forcément le temps d'attendre un joueur qui n'est pas en forme physique et d'attendre le fait qu'il revienne en forme physique en prenant des risques dans mon titulaire en me disant bah, déjà sur les 11, il y en a un pour sûr qui ne sera pas à 100% et qui ne me fera pas la prestation que j'attends. Sauf que ça, c'est la partie où tu peux comprendre un entraîneur. Sauf que plus tu recules l'échéance, moins il y a de chances que Gosens arrive à ce 100%. Parce que ce n'est pas à l'entraînement qu'il arrivera à 100%. C'est en accumulant des minutes de jeu, des minutes de match. Et là, contre l'Udinese, je trouve effectivement que de ne pas le faire rentrer, un, déjà, je m'interroge sur la place de Gosens, en l'occurrence. Ça veut dire que maintenant, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe ? Deuxième chose, tu as évoqué les nombreux changements que ça a procuré en défense, mais ça veut dire que plutôt que de faire rentrer Gosens, qui est certes pas à 100% physiquement, mais qui connaît ce poste, et qui est quand même avec toi depuis maintenant 8 mois, hein, parce qu'il arrive en janvier, hein, donc il est avec toi depuis 8 mois, donc il a quand même eu le temps de comprendre un peu ce que tu lui demandes.
Et tu as investi sur lui en plus.
Et hein, tu as investi 25 millions d'euros sur lui, et tu as raison de le rappeler, c'est pas un petit investissement. Et c'est ce qui a provoqué aussi le départ de Perisic, hein, parce que tu pouvais pas avoir
évidemment
deux joueurs à ce poste-là avec un salaire aussi important.
Et tu le remplaces pas parce que pour toi, tu as le remplaçant déjà à la maison. Quoi,
exactement.
Parce que t'as pris le sens un peu
avant. Exactement. Mais ça veut dire que tu préfères faire changer des joueurs de poste en cours de match et parfois donc sur un seul changement faire changer trois joueurs de poste plutôt que de faire rentrer le vrai piston gauche que tu as dans l'effectif. Et ça, moi, je comprends pas.
Et, ouais, je pense que Gosens ne comprend pas non plus.
Non, mais j'essaye de comprendre. Mais alors déjà, pour moi, de base, il y a un monde entre Darmian et Gosens. Quand ils sont tous les deux à 100%. Là, j'entends le facteur Gosens n'est pas 100%, mais je réexplique que moins tu le feras jouer, moins il aura d'opportunités d'être à 100%, et plus ça va devenir un problème sur le long terme, alors qu'au départ, ça aurait été un problème sur le court terme, sur quoi 4-5 matchs pour qu'il revienne à 100% 6 matchs. Sauf que là, s'il ne joue pas, etc., c'est un problème que tu vas traîner toute l'année, là. Il sera jamais à 100%. Donc au lieu de l'avoir sur 6 matchs, tu vas l'avoir sur 38. En plus, malheureusement pour Inzaghi, les résultats ne lui donnent pas raison. Et ça, on peut le savoir qu'après, hein, après les choix. Donc j'ai du mal à comprendre, tout comme j'ai du mal à comprendre le fait qu'Aslani ne joue jamais.
Alors qu'il avait fait une bonne pré-saison.
Il a fait une bonne pré-saison. Que tu as des difficultés dans l'élaboration de ton jeu et de tes phases de construction parce que maintenant, tout le monde met un joueur sur Brozovic en individuel. Et que tu as un mec qui le suit partout et donc qui ne peut pas avoir l'influence habituelle sur le jeu. Donc, ben je sais pas. Il peut réfléchir à d'autres solutions. Je prends un exemple. Roberto Mancini. Quand il a vu que tout le monde mettait quelqu'un en individuel sur ou Jorginho ou Verratti quand l'Italie jouait, eh ben il a mis les deux. Il a mis deux playmakers. Parce que difficilement, avec Bonucci capable de construire de derrière Verratti et Jorginho, les adversaires allaient consommer trois joueurs en individuel sur ces joueurs-là sans ballon. Alors, sauf les équipes qui font de l'individuel sans ballon, un principe de jeu éclatant et inscrit dans le marbre. Typiquement, l'Udinese et l'Atalanta, le Torino, etc. Mais tu peux aussi avoir différentes stratégies selon ton adversaire. Face à des adversaires qui vont mettre Brozovic en individuel et qui vont ensuite attendre le reste, insère Aslani. Aslani est tout à fait capable de dicter le jeu déjà. On l'a vu à Empoli, on l'a vu en pré-saison. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'est pas intimidé. Il est capable de prendre des responsabilités très jeunes. Je sais pas, le truc du système immuable, même quand ça ne marche pas, on reste dans le truc. Même quand ça ne marche pas, on fait les mêmes changements. Même quand ça ne marche pas, on fait que du poste pour poste.
De toute façon, Brozovic est suspendu contre la Roma.
Ouais. Oui, mais là, tu n'auras que Aslani, en l'occurrence. Moi, j'aimerais voir parfois les deux ensemble.
Après, on va peut-être déjà le voir au moins contre la Roma, parce que si Aslani avait été recruté, c'était pour remplacer Brozovic. Donc, j'espère qu'on pourra le voir dans un choc contre la Roma. Mais moi, je voulais revenir aussi sur tes propos sur l'aspect mental d'une équipe qui, au-delà de l'aspect physique, vraiment, tu vois, ne réagit pas même dans les difficultés. Elle passe trois fois devant au score lors des trois derniers déplacements, et à chaque fois, elle part 3-1. C'est une équipe qui s'écroule dès ses premières difficultés. C'est une équipe, j'ai l'impression, qui vient encore touchée par le titre perdu la semaine dernière, et encore plus depuis le derby reperdu contre Milan il y a quelques semaines, et une équipe qui parfois aussi ne comprend pas trop certains choix, qui est frustrée, qui n'arrive pas à faire ce qu'elle devrait faire ou ce qu'elle doit faire. Et tu vois, le problème de cette trêve-là, c'est que tu peux certes travailler sur certaines choses, mais comme l'a dit Inzaghi après la rencontre, c'est que tout le monde va partir en sélection et que tu vas pas pouvoir non plus travailler comme tu le souhaiterais. Donc, tu as déjà perdu 3 matchs en cette journée. La semaine dernière, tu en avais perdu 4 sur toute la saison. Tu as encaissé 11 buts. Tu as quand même des signaux qui sont rouges quasiment partout. Inzaghi a dit que s'il aurait pris toute l'équipe à la mi-temps, il l'aurait fait. Et voilà, au-delà vraiment de l'aspect tactique ou physique, c'est l'aspect même mental. J'ai vraiment l'impression d'avoir une équipe qui, dès la moindre difficulté, s'écroule et qui n'est pas capable de réagir ou même de se révolter pour aller chercher une égalisation, pour aller chercher la victoire. Et ça, quand même, c'est assez inquiétant parce que l'Inter, quand même, ces dernières années, s'était bâti un mental assez fort et assez puissant, même dans les difficultés. Et là, quand tu perds trois matchs, si on enlève celui du Bayern, ce qui fait 4, toutes compétitions confondues en 9 matchs, 4 défaites sur 9, Johan, c'est quand même beaucoup.
On est d'accord, mon cher Guillaume. On va passer à notre vrac.
Oui.
Je te propose de... Alors, on peut peut-être faire chacun un club, tu vois, qu'on a noté. Moi, je me suis noté l'Atalanta. Je trouve que c'est extrêmement bien payé, ce début de saison. On parlait d'équipes qui étaient mal payées. Eux, je trouve qu'ils sont très bien payés. Je suis pas convaincu par le... Je l'ai déjà dit, je crois, hein, le recrutement très physique, l'absence de joueurs techniques au milieu de terrain, hormis Cop Miners. Mais en dehors de ça, je trouve qu'on est un peu sur le même registre. Sopi, Boga, Lookman, Ederson, je trouve qu'on est un peu sur le même profil. Ok, c'est physique, ça gagne des duels, mais dans l'utilisation du ballon, c'est quand même moyen. On l'a vu à Rome notamment, on l'a vu dans d'autres matchs où ils ont été en difficulté dans le jeu. Et je cherchais une formule un peu pour résumer ça. Et je sais plus où j'ai lu ça, sur quel site. Je me demande si c'est pas sur le site Ultimo Uomo, il me semble. Et ils ont utilisé une formule que j'aimais beaucoup pour résumer le match contre la Roma. Ils ont dit « Gasperini a gagné un match comme de la manière qu'il n'aimerait pas gagner. » C'est-à-dire en subissant tout le temps, en étant assez peu courageuse, en faisant très peu de choses offensivement, en étant très passive. Et je sais pas, là effectivement, ils sont tout en haut du classement, entre guillemets, puisqu'ils sont, deuxième, voilà, premier ex aequo, mais je suis vraiment pas convaincu par ce que je vois en termes de prestations. C'est une équipe qui surperforme devant, qui surperforme derrière pour le moment. Tu peux éventuellement faire une saison comme ça, on verra. Mais il y a un petit virage là, je trouve, à l'Atalanta, à la fois dans le recrutement, dans le projet, dans tout ça.
On l'avait évoqué. Hein.
Ouais. Donc à voir si ça
plaira. Est-ce que c'est pas l'Atalanta la moins Atalanta des dernières années?
Mais
c'est... j'ai lu ça dans la presse et je trouve que c'est aussi.
Ouais, voilà, bah, c'est un peu comme Gasperini a gagné un match de la manière dont il détestait, il détesterait c'est gagner un match. Quoi. Guillaume, est-ce que t'as un autre club dont tu veux parler?
Écoute, moi j'en ai deux pour lesquels je suis inquiet. Je vous l'avais déjà dit, c'est quand même c'est la Samp. La Samp, Johan, qui est quand même lanterne rouge.
Ouais, ouais, ouais.
2 points en 7 matchs. Et surtout, enfin, au niveau du jeu, je comprends pas. Je comprends pas. Et je vois pas où Gianpaolo veut aller. Je comprends pas comment a été bâtie l'équipe. Et tu vois, on a eu le Genoa la semaine dernière, qui après des années a flirté avec la série B et a fini par y tomber. Et j'ai peur cette saison que la Samp y arrive tout droit, parce que s'il y a pas de changement à court terme, on sait que Gianpaolo est sur la sellette, selon la presse locale. Donc, ça risque aussi de bouger pendant la trêve là-bas. En tout cas, la Samp, voilà, tu sais, me rappelle vraiment la trajectoire du Genoa. Et voilà, quand tu fais quand même seulement 2 points en 7 matchs, que tu es déjà à 5 défaites et 2 nuls, et tu n'as pas gagné un match, voilà, c'est quand même très juste. Et l'AS Vérone, on en avait parlé aussi. une équipe qui n'est pas du tout la même que la semaine dernière. Tu as plus ton entraîneur, hein, qui était Igor Tudor. Tu as eu beaucoup de changements, beaucoup de pertes. Et voilà, là, ils sont 17e. Ils n'ont que 5 points. Ils ont déjà perdu 4 matchs. Voilà. C'est deux équipes pour lesquelles vraiment voilà, je suis assez inquiet. Et je voulais quand même faire une mention spéciale comme à Udinese, qui est 3e. Qui est déjà 16 points, 7 matchs, 5 victoires, 1 nul et 1 perdu. Ça reste quand même une grosse surprise. Alors certes, c'est peut-être pas le jeu européen dont on parlait tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, il y a eu un bon boulot de fait en amont, même au niveau du recrutement. T'as un Deulofeu quand même qui a pris les choses en main, qui voilà, on le sait, a une carrière assez peut-être tourmenté, voire même, on peut même parler de gâchis, parce qu'on connaît le talent du joueur, mais qui a été exprimé à pas assez au très haut niveau. Et dans une équipe comme l'Udinese, on sait qu'il aurait pu partir à Naples, hein, cette saison, pas l'oublier, enfin cet été, pardon, il ne faut pas l'oublier, mais voilà, il est resté à l'Udinese, et c'est peut-être pas l'équipe la plus flamboyante, mais voilà, ce titre fait un bon boulot, et pour l'instant, quand même, elle a battu l'Inter, elle a déjà 16 points. Donc,
Je la trouve quand même un peu plus courageuse et ambitieuse que la version de Cioffi, hein.
Oui, ah bah bien sûr. Mais d'ailleurs, Tchouf, qui allait là, ça a beaucoup de mal. Hein. Donc, pareil, là aussi, tu vois. Moi, j'avais misé sur Strop, le premier entraîneur licencié de la Serie A. C'était finalement le deuxième, parce que Mijanovic l'avait été avant. Tchouf,
il sera
assez méfiant. Ouais, à mon avis, il ne sera pas loin. En tout cas, l'Udinese, qui est quand même la grosse surprise probablement du début de saison, parce que troisième, 16 points, Johan,
ouais.
Chapeau. Franchement, chapeau, et c'est très agréable.
Je reviens juste un instant sur la Samp. Ils ont quand même eu un calendrier pas simple. Ça, c'est à mettre, on va dire, dans la balance. Atalanta, Juve, Lazio, Milan dans les 7 premières journées. Malgré tout, je suis comme toi, les matchs contre eux. Mais justement, ce qui est le plus inquiétant, c'est les défaites contre la Salernitana, contre les Lazerone,
contre Spezia. Ouais.
Donc voilà. Pour rappeler aussi quand même qu'ils ont perdu beaucoup de tauliers cet été. Yoshida, Torsby, Ekdal, Kandreva. En plus de ton plus gros talent d'Amsgard, bon, voilà. On sait que le club est en vente aussi, hein, donc tout ça pèse aussi un peu dans ce que tu peux investir ou pas. Mais là, attention, hein. Comme toi, le gros signal d'alarme pour la Samp. Et moi, je voulais parler encore de deux clubs. La Fiorentina, problème de finition incroyable. On est du niveau de la Roma. Qu'est-ce qui se passe avec Jovic, avec Cabral? Tu vois, moi j'aime bien me mettre à la place des entraîneurs, j'ai certainement pas leurs compétences. Et tu vois, je me dis, t'es italiano. T'as donné une vraie identité de jeu à cette équipe. C'est une équipe qui, l'expression est toujours mal utilisée, mais je l'utilise quand même, qui joue bien. Qui joue un jeu proactif, qui est courageuse, qui est ambitieuse dans le jeu. Qui produit des occasions, qui s'en crée beaucoup, qui parfois fait 30 tirs dans le match. Mais à quel point il doit être frustré de voir le manque de finition de ses joueurs. Je pense que ça doit être énormissime, la frustration. Parce que tu fais tout bien sauf la finition. Tu te dis, tout ton travail est bien assimilé, interprété, déroulé, exécuté. Et en plus, c'est ambitieux, mais tu mets pas un but. Et Jovic, c'est dramatique, les occasions qu'il rate. Cabral, il pèse pas du tout. Ikoné, là, il s'est un peu débloqué lors du dernier match. Mais il rate des trucs aussi. C'est improbable. Sotil, ça n'a jamais été un finisseur. C'est quelqu'un qui déclenche beaucoup de choses, qui met de la vitesse, etc. Mais pareil, lui, dans les choix de frappe, etc., ça va pas.
Rappelle-toi le match contre Rigas en
Europa Conférence. Oui, il y a eu quoi, 35 tirs, c'était ridicule.
Incroyable.
Ridicule.
Partout, c'était incroyable.
Et la seule éclaircie un peu là, c'est de se dire que Nico Gonzalez est de retour. Mais même lui, hein, c'est pas un immense finisseur. La saison dernière, je le soulignais déjà, c'est que il ratait des occasions énormes. Mais par contre, il dynamite aussi les défenses, donc il peut amener des pénalties, des choses comme ça, des coups francs, etc. Donc, les pénalties, il faut les mettre. Vu que Berragui a raté le dernier, mais voilà. Moi, la Fiorentina, c'est une énorme frustration sur ce début de saison, dans ce que je vois. Je sais pas si tu veux ajouter un truc, sinon je
passe. Ah non, non, je suis globalement d'accord. Non, non, parce que tu as l'entraîneur, tu as l'équipe, mais tu as un manque de finition qui est criant. Et je parlais de Marco Rodriguez, mais il y en avait beaucoup d'autres aussi.
Ouais.
Où tu as raté des occasions énormes. Et si, autant tu n'avais pas le jeu, c'est une chose, mais quand tu as le jeu et tu as quand même un entraîneur qui a des idées, on en parlait justement assez modernes, quand tu n'arrives pas à les conclure simplement par un problème de finition, comme pouvait l'avoir à la Roma, par exemple, dimanche. Je pense vraiment que le mot, tu as dit, c'est frustrant. Et je pense vraiment que l'adjectif, c'est ça. La Fiorentina est vraiment frustrante parce que tu sais qu'elle peut mieux faire, mais elle est vraiment handicapée par un problème de finition qui est même parfois lunaire, tellement les occasions sont énormes.
C'est ça, exactement. Et puis, je voulais parler un petit mot de Sassuolo. Ah, c'est mon équipe chouchou, je suis obligé d'en dire un mot quand même. Je trouve que c'est une équipe qui défend mieux, qui est beaucoup plus sérieuse et disciplinée, et ça plaît aux joueurs, dans le vestiaire, ça je le sais. Il ne faut pas négliger les départs de Raspadori et Scamacca, parce qu'en plus, avec la blessure de Berardi, ben, tu joues avec aucun titulaire de ton trio d'attaque de la saison passée. Donc le retour de Berardi va être très important. Pinamonti, il va falloir marquer aussi. Pour l'instant, un but, c'est pas suffisant. On va lui laisser le temps, c'est un joueur qui a du talent. Je sais pas si, comme beaucoup l'affirment, que Pinamonti a plus de talent que Scamacca. J'aurais plutôt tendance à penser l'inverse, mais on verra. Ce que j'ai aimé, c'est les premières prestations de l'Orienté, qui amène énormément de vitesse, de qualité technique aussi, qui est un excellent frappeur de coup franc. Je pense que dans les semaines à venir, avec le retour de Berardi plus l'Orienté, en termes de coup de pied arrêté à Sassuolo, on va être vraiment pas mal. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est que c'est une équipe qui défend mieux, qui défend plus en bloc, qui est plus concentrée, qui est plus exigeante avec elle-même dans les matchs. Et pour ça, il y a des données, évidemment, que j'ai pas sous la main, mais je vais me dépêcher de récupérer en meublant un petit peu, mon cher Guillaume.
Non, mais je peux meubler en disant que Dionysi, on était quand même curieux de le voir pour la prête des Zerbi, qui n'était pas simple à prendre quand même, comme suggestion. Et quand même, on voit qu'il y a une continuité et comme tu disais, mais avec plus de solidité. Alors, on part peut-être moins à l'abordage, on est peut-être moins insouciant.
Ouais.
Mais on est capable quand même de garder un équilibre, comme à Turin samedi, où tu gagnes à la dernière seconde. Et ça, ce n'est pas toujours le cas à Sassuolo, mais tu ne prends pas de but et sur la dernière action, tu es capable d'aller arracher la victoire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour Sassuolo. Et c'est important dans la quête d'une saison, parce que parfois, Sassuolo aussi avait trop tendance à prendre trop de buts ou à craquer. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une équipe qui montre un visage différent, avec pourtant une continuité au fil des années, et malgré aussi la perte des joueurs cet été.
J'ai retrouvé mes chiffres, mon cher Guillaume. Ah. Donc, déjà, merci pour cet ameublement digne d'IKEA. C'était magnifique.
Non, j'aurais préféré Paul Tournay, sauf.
Ouais. Oui, voilà, parce qu'en plus, j'ai IKEA et c'est pas du haut de gamme. Donc, non.
Non, voilà, on va prendre Paul Tournay, sauf. Voilà.
Artigiani de la qualité, bien sûr.
Exactement.
Et voilà. Juste pour revenir sur l'implication des joueurs sans ballon, qui a souvent été reproché en disant à Sassuolo, on aime surtout le jeu avec ballon et sans ballon, on fait peut-être pas le sprint qu'il faut au moment où il faut, on fait peut-être pas. On rentre pas avec assez d'agressivité dans le duel, etc. L'année dernière, Sassuolo, sur les pressions, donc le nombre d'actions de pression que tu fais sans ballon, en bloc médian, ils étaient 15e. En nombre total de Serie A. Cette année, ils sont 2e. Le changement, il est radical. Même chose pour le pressing dans les 30 mètres, les actions de pression dans les 30 mètres adverses. Donc les 30 mètres les plus hauts sur le terrain. Donc ça veut dire que l'attitude, elle est différente. Tout en n'ayant renoncé un petit peu, et là je suis en train de prendre la stat, à ce qui a fait la force de Sassuolo, c'est la monopolisation du ballon. L'année dernière, ils avaient plus de 55% de possession. Cette année, ils ont un peu plus de 48% de possession. Donc il y a un petit peu une bascule qui est faite en termes de projet de jeu, parce que Dionysi est quelqu'un d'intelligent, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. Il a aussi vu les défauts de la saison passée, même s'ils font une très belle saison, une belle saison. C'est qu'ils ne pouvaient pas comment dire, il pouvait pas viser plus haut sans forcément parler de classement ou de nombre de points, mais en termes de prestations, si son équipe était aussi, je sais pas si c'est passive ou aussi peu exigeante sur les phases sans ballon, je vais le dire comme ça. Et là, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Il faut réussir à garder ce qui a fait ton identité et l'utilisation de la qualité de tes joueurs en phase de possession, tout en réussissant à bien et à mieux défendre. Et pour le moment, ils le font bien sur le mieux défendre. Sur l'utilisation du ballon, ils le font un peu moins bien. Mais attention, ils le font un peu moins bien aussi parce que le trio d'attaque n'est pas du tout le même. Qu'il y a des nouveaux joueurs qui doivent s'intégrer et qu'en plus, tu as perdu Berardi, qui est un joueur ô combien important. Donc voilà un petit peu pour cette évolution de Sassuolo que je tenais à souligner. Est-ce qu'il y a un dernier club que tu veux mettre
Écoute, je pense qu'on a fait le tour.
on the spot?
Oh, non, non, je pense qu'on peut partir maintenant dans une trêve internationale dans laquelle on va s'ennuyer,
Aïe,
probablement.
aïe, 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 aïe,
Voilà,
aïe,
on
aïe.
va peut-être éviter d'en parler pour ne pas ressasser et retourner le couteau, enfin remuer plutôt le couteau dans la plaie, mais voilà, je pense qu'on a fait un premier bilan global de ce qu'on a pu voir en Serie A. Et on sait que le retour quand même de la pause va être animé, hein, parce que le match fait 3 jours, fin de la phase de groupe de Ligue des Champions. Donc voilà, en novembre, juste avant le mondial, auquel on ne participera pas, on aura le temps de débriefer une première partie de saison qui aura quand même donné plusieurs verdicts en attendant le retour de janvier.
Et j'en profite, vu qu'on enregistre, on finit l'enregistrement, il est midi. Mon cher Guillaume, dernière news de Sky Italy. Giornata di riflessione sul futuro di
Allez.
Giampaolo.
Ah, je pensais que tu allais dire allez. Et là, les supporters de la Juve dans leur voiture ou dans les transports a fait exulter. Mais bravo, tu leur as cassé leur espoir.
Donc, à suivre. Peut-être
Ouais.
que quand vous écouterez cet épisode, la décision aura été prise de se séparer de Giampaolo. Ou peut-être pas, mais
Bon, qui est en
qu'est-ce
difficulté quand même depuis son retour à la Samp. Hein.
qui. Ouais.
On a rarement vu la Samp
Deux points
de
en sept
Jean-Paul.
journées, zéro
Ouais.
victoire, cinq défaites. Bon.
C'est compliqué.
Compliqué. Voilà mon cher Guillaume, voilà qui boucle notre premier épisode bilan en cours de saison. Après 7 journées et 2 journées européennes, parce qu'on a aussi évoqué un petit peu les bilans européens. Merci Guillaume, on se retrouve à très vite.
Merci, Johan.
Comme d'habitude, on n'annonce pas de date pour le prochain épisode. On fait un peu ça quand on a le temps, un peu au feeling, etc. Mais n'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, mon cher Guillaume. Je te remplace sur les 5 étoiles
Bien sûr, tu
pour
m'envoies ces 5
aujourd'hui.
étoiles. Moi, je vais rajouter par les autour de vous, à vos amis,
Exactement.
à ceux qui aiment le football italien et pas seulement. Hein, voilà, avoir vos retours et les choses à améliorer, partager, retweeter. Voilà, faites-nous connaître. Ça nous donne aussi quand même de la force, hein, parce que si le podcast est quand même mine de rien ancien, Johan,
Ah
ça
oui.
commence à faire quelques années, c'est toujours important et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours, d'avoir les petits commentaires sur Twitter. Voilà, on vous lit. Donc
Mais
voilà,
tu sais,
c'est
Guillaume,
toujours important.
je pensais à quelque chose. Je pense qu'un de nos prochains épisodes, on va essayer de mettre en place une foire aux questions.
Et pourquoi pas?
Tous les
Et
auditeurs
pourquoi
pourront
pas?
nous poser les questions en amont sur le compte Twitter de Calcio EPP.
Et on y répond une par une.
Et exactement, voilà,
Et ben
on
pourquoi
peut
pas?
se dire ça élargira un petit peu le paramètre des choses qu'on peut évoquer en fonction des sujets choisis par les auditeurs. Je
Et
pense
bah
que ça peut
allez,
être sympa.
vendons. Vendons-le.
Exactement. Merci Guillaume. Merci pour votre écoute et à très vite. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.